CISM 89.3 FM. Jeudi 18 avril 2024, vous êtes à l'antenne de CISM 89,3 La Marge, à l'écoute de Jimmy et Neutron avec Corinne, moi-même au micro, ainsi que François, bien sûr.
Salut.
Comment vas-tu aujourd'hui, François?
Ça va bien. On est vraiment... cette semaine, c'est un thème que tu as suggéré que j'ai trouvé super intriguant.
Ben oui, parce que la semaine dernière, après notre émission, on s'est dit, bon, de quoi parle-t-on la semaine prochaine? On a eu beaucoup de thématiques espace, et évidemment, à cause de l'éclipse.
Oui.
On a parlé de la rougeole aussi il y a deux semaines maintenant. Donc là, on s'est dit qu'il fallait peut-être changer. Et là, je t'ai proposé de parler, qu'on fasse chacun deux chroniques sur des animaux surprenants.
Ouais. Là, et j'aime vraiment ça, cette idée-là d'animaux surprenants.
Ben, donc, c'est clair, on sait très bien, François, tu le dis quand même assez souvent que t'aimes ça, les thématiques animalières.
Oui.
Quand on fait des actualités scientifiques, tu le fais au moins toujours une chronique animalière.
Et puis souvent, au moins une chronique sur l'espace. Fait que là, il me manquerait juste des animaux spatiaux, puis là, ça serait comme... La meilleure actualité de tous les temps.
C'est clair, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu là.
Les animaux spatiaux?
Ah.
Les tortigrades, apparemment, qui peuvent survivre dans l'espace.
Mais... Justement, j'ai failli faire une chronique là-dessus, mais je me suis dit que c'était peut-être trop, c'était trop facile. C'était la facilité, le tortigrade.
Oh là là.
Donc, on est allé dans autre chose. Avant tout, on va commencer en musique et avec une playlist thématique, comme toujours. On va moins dans le style de musique habituel, mais là, les animaux, j'avais tellement de choix que on est allé dans le plus différent. On va commencer avec Petit Béliveau. On va aller écouter Invite les animaux dans ta maison. Puis on se retrouve après pour ces chroniques animalières surprenantes.
Invite les animaux dans ta maison.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron et il y a eu un petit regard confus en studio à la fin de cette chanson. Cette semaine, Corinne, tu nous as proposé de parler d'animaux surprenants et là, c'est moi qui commence apparemment avec les animaux surprenants.
Tout à fait.
Donc, j'ai appelé...
Surprends-moi.
J'espère que ça va te surprendre parce que moi, ça m'a surpris quand j'ai lu l'histoire de cet animal. Donc, la chronique s'intitule « Les proconylini, les insectes qui pissent en utilisant la super propulsion ».
Oh, ça promet, ça commence fort.
Alors quand j'ai voulu faire mes chroniques, j'ai quand même lu beaucoup de choses sur les animaux. Puis je sais pas si c'est parce que je fais toujours des chroniques animalières dans les actualités scientifiques, mais ça a pris du temps avant que je tombe sur quelque chose que j'ai trouvé vraiment surprenant. Surtout que souvent c'est bizarre, mais c'est juste comme un trait de l'animal qui est bizarre, puis t'es comme ah ben ok, tu sais.
Alors reste, c'est pas.
Alors que là, je suis donc mon premier choix s'est arrêté sur un insecte, plus précisément une espèce de cicadelle. Donc une cicadelle, si on n'a jamais entendu parler de ça, c'est normal. Moi non plus, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais ça a de l'air en gros d'une genre de sauterelle avec plus d'ailes, un peu moins de pattes, mais toujours plus petit qu'une cigale.
Ok, mais ça fait partie de la famille des cigales? Parce que en anglais, c'est pas cicadas, cigale?
Ouais, c'est ça, mais genre en français, cigale, cicadelle et sauterelle, c'est tout pas la même chose, mais ça se ressemble tout un peu. Là, c'est des genres de comme insectes sauteurs ailés qui mangent des herbes. En tout cas, genre.
Donc, qui ont chanté tout l'été.
Et aussi, ben, je sais pas si les cicadelles chantent, mais les cicadelles sont considérées comme des insectes ravageurs pour plusieurs cultures.
Ok.
Et donc, c'est pour ça que il y a une étude des cicadelles, parce que elles sont des nuisibles, particulièrement pour la pomme de terre. Quand on parle, mettons, des cultures au Canada, donc c'est vraiment la pomme de terre qui est visée par ça au Canada. Donc, la cicadelle, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se nourrir de la sève des plantes, ce qui va nuire à la plante, évidemment, parce que la plante n'aura plus de sève. Mais pour les cicadelles, c'est pas non plus un grand festin, parce que on s'entend, de la sève, c'est essentiellement de l'eau. Donc, par exemple, si on prend la pomme de terre, on va avoir 95% d'eau dans la sève. Donc, c'est pas très nourrissant. Ce qui fait en sorte que la cicadelle, elle a besoin de consommer une grande quantité de sève pour subvenir à ses besoins énergétiques. Et qui dit grande consommation d'eau, dit grande production d'urine.
Ah oui.
Donc, voilà. C'est comme un processus en continu. Donc, les cicadelles vont rejeter chaque jour jusqu'à 300 fois leur masse en urine.
Ah ouais?
Ouais. Voilà. Donc, on parle quand même de... Si vous pensez que vous avez beaucoup envie de pipi, la cicadelle est genre 100% du temps en train d'avoir envie de pipi. À tel point que les cicadelles consomment une grande partie de leur énergie juste pour uriner. Donc, c'est comme...
Ouais. C'est tellement contre-productif.
Oui, effectivement, ils doivent consommer une grande quantité de choses qui contiennent pas d'énergie, puis ils doivent consommer plein d'énergie pour extraire l'énergie dans la chose pas d'énergie. Bref. Comme ce sont des relativement petits insectes, les cicadelles n'ont pas la force nécessaire pour uriner en jet.
OK.
Contrairement aux cigales, qui sont des insectes beaucoup plus gros et qui sont capables d'uriner en jet. Alors, les cicadelles vont produire des petites gouttes d'urine.
OK.
Et vont uriner goutte à goutte. Ce qui donne l'image que lors d'une, et c'est comme une expression, j'imagine, populaire agricole, j'ai aucune idée, lors d'une infestation de cicadelles, certains parlent de pluie de cicadelles, parce que dans le fond, t'as toutes les cicadelles qui urinent au goutte à goutte, puis ça fait comme une petite pluie. Un fait étonnant lié à la production des gouttes d'urine de cicadelles, c'est que ces insectes vont les propulser assez loin de leur corps.
OK.
Donc, elles font pas de jet, mais elles jettent des gouttes d'eau, et ce, à des vitesses relativement élevées. C'est surprenant car la propulsion de ces gouttes demande une grande quantité d'énergie, énergie qui pourrait être utilisée autrement par cet être vivant. Donc, les cicadelles, pourquoi elles consommeraient une grande, très, très grande quantité d'énergie à propulser des gouttes d'urine loin et à des grandes vitesses? Donc, comme c'est un insecte ravageur, il y a des chercheurs qui observent ces insectes-là. Et il y a des chercheurs qui ont observer les mécanismes de propulsion des gouttes d'urine des cicadelles.
Quand même niché comme...
Oui, c'est niché comme recherche. Donc, il n'y a pas de limite à la science, apparemment. Certaines cicadelles ont même été examinées à l'aide de tomodensiométrie. Donc, pour vraiment comprendre tous les mécanismes derrière la propulsion de la goutte d'urine. Il a été découvert que les cicadelles possèdent un genre de membre que les chercheurs ont appelé stylus anal, qui sert de lanceur de gouttes d'urine.
OK.
Donc, dans le fond, la cicadelle va produire une goutte d'urine, ça va se loger au niveau du stylus, et là, le stylus va comme les catapulter, là, un peu comme si on donnait une pichenote sur la goutte. La surprise, c'est que les gouttes voyagent à des vitesses qui sont 40 fois plus rapides que le mouvement du stylus. Donc ça, ça a comme piqué la curiosité de nos chercheurs et ils ont décidé de poursuivre leur recherche et leur enquête. En faisant une analyse plus fine des mouvements du stylus et de la goutte d'urine, ils ont remarqué que, lors de la propulsion de la goutte, celle-ci se déformait et que le mouvement du stylus est synchronisé avec la déformation de la goutte pour maximiser le relâchement d'énergie. L'image qu'ils ont utilisée pour expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est comme si on prenait une personne sur un plongeon qui synchronise son impulsion en même temps que le mouvement de la planche du plongeon.
Ouais.
Donc, dans le fond, tu viens comme utiliser l'impulsion de tes jambes et l'impulsion de la planche du plongeon qui fait en sorte que tu peux sauter beaucoup plus haut que si tu avais utilisé juste l'un ou juste l'autre. Donc, c'est un peu ça l'idée. Cette manière d'utiliser la déformation, la compression et la tension de surface dans les gouttes et en tirer un maximum d'énergie est appelée la superpropulsion. Et selon nos chercheurs, il s'agit du premier organisme biologique à utiliser ce type de ce principe physique pour des besoins, je veux dire, de son espèce.
Okay,
donc
ouais,
c'est la première fois qu'on observe ça dans le monde biologique. Pourquoi évacuer son urine avec la superpropulsion? Alors,
ouais,
pourquoi faire ça? En premier lieu, en utilisant l'énergie emmagasinée dans la tension de surface de la goutte d'urine, la cicadelle n'a pas besoin de dépenser sa propre énergie pour expulser son urine. Mmh. Donc déjà là, elle vient utiliser un phénomène physique qui est plein d'énergie et donc ça lui permet d'économiser cette énergie-là qui est chèrement gagnée en buvant toute cette sève. Ensuite, les biologistes pensent aussi que en rejetant son urine très loin, la cicadelle préserve son site d'alimentation, donc elle ne s'auto-contamine pas avec sa propre urine. Et finalement, c'est aussi supposé qu'il s'agit d'une technique pour éloigner les prédateurs en envoyant des signaux biologiques loin de l'endroit où elle se trouve. Donc ça, c'était l'histoire de la superpropulsion de gouttes d'urine par les cicadelles.
C'est, je pense que surprenant, c'est le mot qu'on peut vraiment utiliser pour décrire cet insecte.
Voilà.
Il y en a beaucoup au Canada, tu disais, non?
Ben, il y en a au Canada. On n'a pas toutes les espèces, là, mais c'est, il y en a.
OK. Puis, je te pose des questions, mais ça se peut que tu n'aies pas du tout les réponses. Comment tu dis que c'est une espèce ravageuse.
Ouais.
Est-ce que c'est contrôlé ou ils font juste comme essayer de...
Effectivement, c'est contrôlé. Donc là, il y a des infestations. Puis là, si vous allez sur les sites des différents ministères de l'agriculture des différentes provinces, vous avez des pages, des fiches explicatives sur la cicadelle. Puis il y en a plusieurs sortes.
Okay.
Donc, il y a comme une cicadelle qui aime les pommes de terre, comme on l'a dit, mais j'ai vu la cicadelle du rosier. Il y a comme plein d'affaires.
Puis est-ce qu'elles urinent toutes de cette façon-là?
C'était pas précisé dans l'article, c'était laquelle qui urinait avec de la superpropulsion.
Ah, eh ben, voyons donc.
Voilà, surprise!
Première chronique très réussie, ma foi. Sur ce, on va aller écouter Animal de Junior et on se retrouve après pour cette deuxième chronique animale.
Spécimen de choix pour ton entrée en matière.
toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron pour cette émission sur des animaux surprenants. J'ai mis « des » parce que je voulais pas dire « les » parce qu'on va juste parler de quatre animaux.
Ouais.
Puis clairement, il y en a beaucoup plus que quatre.
Ah oui, oui, oui.
Puis moi, j'ai jeté mon dévolu sur un animal que je pense que tu connais, François.
Oh.
Mais on va commencer avec un petit quiz pour savoir si tu sais de quoi il parle. De quoi, pas de quoi il parle, mais de quoi il s'agit.
Déjà, c'est un animal parlant,
ouais.
Ça restreignait les choix.
Oui, donc on est à mi-chemin entre une créature fantastique et un cétacé.
OK, le dauphin.
Ben non, pense à une créature fantastique dans le sens de imaginaire.
Oui, oui, oui. Je sais pas moi, ça doit être une pieuvre, là, non?
Non, mais je vais te donner un autre indice.
Okay.
Son surnom pas dans l'imaginaire collectif, mais son surnom commun, si on veut, c'est la licorne des mers.
Ah, c'est le narval.
Le narval, oui.
Oui.
C'est ça. J'ai jeté mon dévolu sur le narval parce que, en fait, moi non plus, je savais pas sur quoi m'enligner. Là, je réfléchis à des animaux que je connaissais. Et là, je veux savoir pourquoi le narval m'est venu en tête, puis je me suis dit, mais je ne connais rien. Là-dessus.
Il est assez surprenant, le narval.
Il est assez surprenant comment ça se fait que ça a évolué pour qu'il y ait une gigantesque corne au milieu du front. Donc je vais parler du narval et j'ai même trouvé un rapport de 65 pages qui date de 2004 du groupe, ben pas du groupe là, mais du COSEPAC, qui est le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
Ok.
Donc ça m'a beaucoup aidé à écrire cette
chronique. À cerner la spécialité du narval.
Exactement. Parce que j'ai appris, c'est quelque chose que je savais pas du tout, que deux des trois grandes populations connues de narval sont en eau canadienne. Donc c'est pour ça.
OK.
Ouais, c'est d'ailleurs c'est des narvals, on ne dit pas narvaux au pluriel.
Ah, okay.
En fait, j'ai pas vérifié mais
ouais,
j'ai
je pense
assumé.
Que tu as raison.
Mais ouais. Ouais, c'est ça je me suis dit. Mais puis la première erreur que j'ai faite en commençant ma chronique, c'est que le narval c'est pas une corne, c'est une défense.
OK.
Comme les éléphants ou les morses aussi. Mm. C'est un peu la même chose. Donc le narval scientifique, oui, je cherchais le mot. Le Monodon monoceros, c'est un cétacé de taille moyenne qui possède des dents. Deux dents, en fait, pour être précis. Il y a pas tant de cétacés qui possèdent des dents. On pense justement, mais moi j'ai pensé directement à la baleine. Elle n'a pas de dents, elle a des fanons. Mais vraiment, c'est ça. Le narval a des dents. À la naissance, le bébé narval mesure plus ou moins 1,60 m, ce qui est quand même assez grand pour un bébé.
Genre la taille d'un adulte.
Oui, c'est ça, une taille moyenne de femme. Puis elle pèse environ 80 kg. Mais les mâles peuvent grandir jusqu'à plus de 5 mètres.
Okay.
Puis je sais pas si c'est 5 mètres incluant la défense ou non. Mmh. J'ai comme pas trouvé cette information nulle part. Et un peu moins de 5 mètres pour les femelles. Et dans les deux cas, plus de 1000 kg, presque 1,5 tonnes dans le cas des mâles, ce qui est quand même assez gigantesque comme animal. Puis cette fameuse défense, on va en parler parce que c'est comme l'attrait principal du narval. C'est pas une défense, c'est une dent. C'est une de ces deux dents en fait. Les narvals mâles ont la dent de gauche qui continue à pousser en spirale et qui va aller transpercer l'avant de la tête pour éventuellement donc sortir et former la défense mythique mais qu'on associe évidemment au narval et peut continuer de pousser jusqu'à quasiment 3 mètres de longueur.
Je fais juste penser à comme quand nous on est des enfants puis on perd nos dents ou on fait nos dents puis c'est genre l'enfer. J'imagine là c'est genre nos dents transpercer notre tête. Mais... En tout cas.
Ouais, c'est pas le même. Imagine, tu pars ça, le sacré cachet que la fée des dents t'amène. Incroyable. Donc, c'est surtout les mâles, en fait, qui ont les défenses, la défense. Les femelles, certaines en ont, mais pas toutes.
Ah,
puis
oui?
on comprend pas pourquoi.
Okay.
En fait, aussi, d'ailleurs, ces dents ont des terminaisons nerveuses, beaucoup, de l'ordre du million, si je me rappelle bien ce que j'ai lu. Et les narvals peuvent les utiliser pour communiquer entre eux, apparemment quand si t'as deux narvals puis que leur défense se touche, ils peuvent communiquer de cette façon-là et ils peuvent les utiliser aussi pour sonder leur environnement. Parce que comme il y a des terminaisons nerveuses, c'est un peu comme nous, admettons tu mets de la glace sur tes dents,
ouais.
Et tu vas le sentir.
Ouais.
Mais c'est un peu la même chose, donc ils peuvent les utiliser donc pour se repérer ou pour voir, mais pas pour voir, mais pour sentir peut-être ce qui s'en vient ou quelque chose comme ça quand ils nagent. Donc, les populations de narval canadiennes se retrouvent dans la baie du Tson et dans la baie de Baffin.
Okay.
Donc, c'est normal qu'on n'en ait jamais vu. Je sais pas toi, François, c'est quand la dernière fois que tu es allé dans la baie de Baffin? Mais
ben, jamais.
Là. Jamais, c'est ça exactement. Donc, c'est très au nord. Puis, je pense que la baie du Tson, c'est assez facile. Tout le monde sait à peu près c'est où. La baie de Baffin, on est au nord du Canada, au large du Nunavut. Enfin, entre le Nunavut et le Groenland.
Ouais.
Donc, il y a très peu de Canadiens, et même d'humains tout court, qui se sont rendus...
Il y a quand même des gens qui habitent là.
Oui, il y a des gens qui habitent là. Évidemment, il y a plusieurs communautés inuites. Mm-hmm. Il y a aussi des stations de recherche et, je pense, de météo qui sont tout au nord du Nunavut. Mais on s'entend que c'est un tout petit,
ouais.
Un tout petit pourcentage de la population canadienne. La troisième grande population, elle va être à l'est du Groenland.
Ah, OK.
Ouais. Donc, ce sont des animaux arctiques. Visiblement, mm-hmm. à cette hauteur-là. Et ils migrent selon les saisons aussi, selon la banquise, puis les courants aussi. Puis en été, ils vont préférer les zones côtières où l'eau est profonde et à l'abri du vent. Puis lors de la migration automnale et plus tard, ils vont aller plus vers la banquise, justement. Puis ils aiment les fjords qui sont profonds. Donc, c'est des animaux qui peuvent aller très en profondeur aussi, et donc de 1000 à 1500 mètres quand même. Puis, en général, les narvals se déplacent en petits groupes, moins de 10 individus, mais les populations sont très grandes, et les petits groupes, ça va être en été, parce que lors des mouvements migratoires, au printemps et à l'automne, là, ça va être plusieurs centaines d'individus qui vont bouger tous ensemble. Donc... Ce sont des animaux qui sont relativement difficiles à étudier, entre autres à cause de leur habitat. Tu sais, il faut quand même qu'il y ait des humains qui se rendent à ces mm-hmm. latitudes-là pour les étudier. C'est pas évident. Donc, on connaît pas tant de choses sur eux au final. Et on sait pas exactement vers quel âge ils arrivent à maturité. À peu près entre 8 et 5 ans. Entre 5 et 8 ans, plutôt. puis les premiers baleineaux vont naître chez les femelles à partir de entre 7 et 13 ans. Puis la gestation dure 14 à 15 mois, quand même. Ce qui est long, mais qui est normal pour les cétacés, je pense. Mais en tout cas, je peux...
14 à 15 mois?
Ouais.
Mais il faut quand même que tu fasses un gros bébé, là.
Ben oui, ben 1,60 m, hein,
oui.
On se rappelle.
80 kilos.
Ouais, exactement. puis les femelles peuvent avoir un baleineau à chaque 3 ans, à peu près.
OK.
Puis on connaît pas non plus leur espérance de vie. C'est même difficile d'évaluer l'âge d'un individu mm-hmm. parce qu'on n'a pas beaucoup d'observations. Mm. On sait par contre qu'ils vont changer de couleur en vieillissant.
Ok.
C'est intéressant, on sait pas pourquoi, mais à la naissance, la peau de narval va être très inégale, gris, bleu, gris, puis elle va devenir noire, puis ou noir bleu avec l'âge. Mais plus l'âge avance, il va y avoir des taches et des stries blanches qui apparaissent. Et chez les adultes, la couleur du ventre va varier aussi, blanc, jaune, crème, des petites taches comme je le disais. Puis les individus qui sont très âgés, les mâles en particulier, peuvent devenir complètement blancs.
Ah.
Mais on sait pas à quel âge, parce que okay. justement, c'est comme un peu inconnu. On pense qu'ils pourraient vivre jusqu'à 50 ans,
mm-hmm.
mais la majorité sera probablement pas à 30 à cause de plusieurs choses, notamment la chasse.
Oh.
Donc, l'animal est chassé surtout pour sa défense qui est faite d'ivoire
mais
aussi.
Oui.
Et aussi pour le muktuk, qui, je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, c'est un mets traditionnel de diverses communautés inuites.
Okay.
Donc, c'est le lard du narval qui est utilisé. Mais pas juste le narval. Le muktuk, ça peut être d'autres types de baleines et
okay.
tout ça. Puis, c'est séché, coupé en petits morceaux, si j'ai bien compris, et consommé comme ça ou avec divers aromates.
Mmh.
Puis, apparemment, c'est très bon, mais bon. J'ai jamais goûté.
Moi non plus.
Puis, c'est ça. Donc, le narval, il est très prisé par ces populations-là. C'est aussi que c'est un grand prédateur au sommet de la chaîne alimentaire arctique. Donc, c'est important de suivre sa présence, mais tu sais, je disais en début de chronique que j'avais trouvé un rapport qui avait été probablement commandé par le gouvernement canadien pour voir si les animaux étaient en péril.
Ouais.
Mais parce que c'est un animal qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Donc la chasse est probablement problématique, mais il y a aussi l'exploitation gazière et pétrolière de l'Arctique qui elle aussi
ouais.
peut être fortement problématique pour les populations de narval. Sinon, dernier petit fait intéressant, ils peuvent plonger à de très grandes profondeurs jusqu'à 1,5 km
quand même. Hein?
C'est ouais. énorme. Puis c'est surtout que la pression puis la température ouais. à cette profondeur-là.
Bouge-toi le nez, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, l'animal aurait évolué pour être capable mm-hmm. de survivre à ça. Chez les mâles aussi, la longueur de la défense pourrait être un signe de fertilité.
Ah.
Et comme de... quand ils font la cour aux femelles, mais oui. Pas la cour, là, j'arrive pas à me rappeler le nom, là, mais quand ils vont essayer de convaincre les femelles mm-hmm. de s'accoupler, ben ça pourrait jouer là-dedans aussi.
Donc il y a une genre de sélection sexuelle qui se fait sur la taille de la
ouais,
de la défense.
De la défense, exactement. Finalement aussi, il y a aucun individu qui a été gardé en captivité à long terme. Ouais. Ils n'ont jamais réussi. Ça a été essayé. Là, je me rappelle plus des dates, mais avant les années 2000, ça fait quand même assez longtemps. Puis les six individus étaient morts assez rapidement okay. de pneumonie probablement. Fait que c'est pour ça que ça contribue à l'espèce d'aspect mystérieux mm-hmm. qu'il y a derrière le narval. Puis c'est répertorié comme une espèce au statut préoccupant.
Okay.
Et sa population actuelle serait autour de 170 000, mais encore une fois, c'est un peu incertain. Donc voilà, maintenant, on en sait tous un peu plus sur le narval.
Un animal mystérieux du Nord.
Du Nord, exactement. Et sur ce, on va poursuivre en musique. On va aller écouter Safari Disco Club de Yel.
Yel, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une chanson de Yel.
Moi aussi.
Donc, vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron et cette semaine, c'est une émission sur les animaux surprenants et aussi, peut-être petite précision, c'est une émission où moi et Corinne n'avons pas partagé le résultat de nos recherches. Donc, c'est non seulement des animaux surprenants, mais c'est une surprise aussi, dévoilement. Alors, moi, pour mon deuxième animal, j'ai poursuivi mes lectures et je suis tombé sur plusieurs choses assez terrifiantes, comme un serpent volant en mesure de planer sur 25 mètres, une araignée de type mygale qui présente des couleurs bleues électriques, alors que le bleu est une des couleurs les plus rare dans la nature. Et je me suis demandé si tous les animaux surprenants étaient nécessairement des animaux terrifiants.
Ouais.
C'est les deux que je viens de te dire dans ton visage.
Ah, je suis terrifiée en ce moment.
Alors, c'est sûr que présenter des animaux étranges, mystérieux et qui font peur ou qui font appel à des craintes par ailleurs, là, tu sais, les araignées, les serpents, ça fonctionne pour générer des clics et générer de l'intérêt sur tes capsules vidéo ou ton article en ligne. Alors, j'ai modifié un peu mes mots-clés pour aller chercher plus des animaux peut-être un peu moins bizarres, mais plus uniques.
OK.
Et dans un article du National Geographic, je suis tombé sur le sphénodon.
OK. Ça a un nom de dinosaure,
c'est
déjà.
C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça a donc bien un nom de dinosaure. Donc là, ça a attiré mon attention parce qu'en plus d'aimer les animaux et l'espace, j'aime beaucoup les dinosaures. C'est comme le petit garçon en moi.
C'est ça.
Qui est vraiment comme, oh, peut-être un dinosaure. Et donc, j'ai poursuivi mes lectures sur le sphénodon. Il s'agit d'un animal qui ressemble beaucoup à un lézard, un genre de mix entre un lézard et un iguane.
Okay.
Il fait environ 80 cm de long. Il habite sur les petites îles autour de la Nouvelle-Zélande et toujours. Tu sais, la Nouvelle-Zélande puis l'Australie, c'est une bonne source d'animaux surprenants et même d'animaux terrifiants aussi. Ouais. Donc, sauf que notre ami le sphénodon, ce n'est pas un lézard.
C'est pas un dinosaure non plus.
Ben oui, c'est ça. C'est un.
J'ai vendu le punch.
Un rhynchocéphale, soit une famille de reptiles, parce que c'est un reptile quand même, là, soit une famille de reptiles qui a pratiquement disparu il y a 60 millions d'années. Et le sphénodon, c'est le seul représentant des rhynchocéphales toujours en existence aujourd'hui.
OK.
Et donc, il est en quelque sorte un descendant direct des dinosaures, parce que le sphénodon, sa famille, il existait... Dans le Trias, là, en tout cas, une des aires où il y avait des dinosaures. Là. Et donc, le fait d'en avoir aucun parent vivant aussi, parce que c'est le dernier de toute sa famille, et apparemment qu'il a aussi subi une faible évolution génétique. Donc, on peut, j'imagine, à l'aide de fossiles, on peut comparer, dans le fond, le sphénodon vivant avec le sphénodon passé. Et donc, il y a eu une faible évolution génétique depuis des millions d'années. Ça fait en sorte qu'on le surnomme parfois de fossile vivant.
Okay.
Et donc, ça, c'est une expression qui est apparemment controversée dans les milieux scientifiques, parce que comme c'est un être vivant, c'est pas un fossile. C'est pas parce qu'il a évolué peu qu'il a pas évolué. En tout cas, bref, c'est pas comme une image exacte et parfaite de ce qui se passait il y a 60 millions d'années. Mais l'image de fossile vivant exprime bien l'idée que cet animal nous donne une espèce de perspective unique sur un monde passé qui n'est plus accessible autre que par les fossiles.
Ouais.
Alors, un des éléments qui distingue le sphénodon des lézards contemporains, c'est qu'il est nocturne.
OK.
Donc, les lézards, des animaux à sang froid.
Mais c'est ça que j'allais dire, ouais.
Exact. Donc, le sphénodon est à sang froid. Donc, il se repose le jour au soleil là, pour se réchauffer, mais il est actif la nuit. Il préfère la chaleur de la nuit et les jeunes sphénodons, eux, par exemple, à contrario, eux, ils sont actifs le jour. Et ça, c'est parce que le sphénodon est victime de cannibalisme. Donc, les adultes vont avoir tendance à manger les jeunes sphénodons.
C'est pas bon pour l'évolution, ça, justement.
Et donc, les jeunes sphénodons ont développé un comportement d'être actifs le jour jusqu'à temps qu'ils atteignent une certaine maturité pour maximiser leurs chances de survie pour pas se faire manger par leurs parents, par exemple. Donc...
Terrifiant.
Oui. Une autre caractéristique spéciale des sphénodons, c'est qu'il va mastiquer sa nourriture. Et ça, je ne savais pas, mais apparemment que c'est un comportement qui est presque exclusivement réservé aux mammifères.
OK. Moi non plus,
donc,
je ne savais pas.
Ben oui. Mais c'est ça, j'ai lu ça dans un article. Là, donc, si je me trompe, j'ai pas contre-vérifié mille fois, là, mais c'est vrai que tous les ruminants, c'est des mammifères. C'est vrai que quand on regarde les oiseaux...
Puis il n'y en a pas beaucoup qui ont des dents, justement.
Et c'est ça, pas beaucoup qui ont des dents. Quand on regarde les oiseaux ou d'autres êtres qui mangent des êtres vivants, mais tu sais, c'est souvent ils avalent ça d'un gros coup. Puis tu sais, quand on pense à d'autres prédateurs comme tous les chats, tous les chiens, puis tout ça, c'est tous des mammifères. Mm-hmm. Fait qu'ils mastiquent toute leur nourriture. Donc, apparemment, le sphénodon est c'est pas un lézard, mais c'est un reptile qui mange, qui mastique. Et ça pourrait être, ce comportement-là pourrait être derrière sa grande longévité.
Okay.
Donc, on estime que le sphénodon peut vivre jusqu'à 90 ans.
Quand même.
Et donc, l'explication derrière ça, c'est que, le fait de pouvoir mastiquer, ça fait en sorte qu'il est capable de s'adapter à des changements dans les conditions de ses sources de nourriture. Donc, il va être capable de manger des insectes, il va être capable de manger des noix, il va être capable de manger d'autres rongeurs parce qu'il est capable de mastiquer. Donc, il peut s'adapter à des changements soudains dans son environnement et donc, ça fait en sorte qu'il a toujours accès à des sources de nourriture durant sa vie. Donc, sa vie très longue, jusqu'à 90 ans, mais on n'est pas certain parce que les sphénodons qu'on observe en ce moment pour déterminer leur longévité sont toujours en vie. Ils sont pas encore morts.
Donc, je comprends pas, ça implique quoi?
Donc, dans le fond, mettons que j'observe j'ai une famille de sphénodons. Ils donnent naissance à des petits sphénodons et là, je décide que j'observe cet individu-là pour déterminer la longévité. Mais si j'ai commencé à faire ça en 1950, le sphénodon, il est encore en vie.
Ah,
là.
Oui, ok, je comprends.
Okay. Et donc je ne sais pas encore exactement à quel moment il va mourir.
Ah, fait que c'est peut-être plus que 90 ans.
C'est peut-être plus, mais ça, c'est l'estimé par rapport à ce qu'on voit.
Ouais.
Donc, mais sauf que c'est pas une moyenne statistique basée sur plein d'observations d'individus. Parce que les individus qu'on observe, ils sont encore en vie.
Mais je pense que c'était un peu comme ça aussi pour le narval. Mais pas à cause qu'ils sont encore en vie, mais tu sais, t'en as pas observé 50 000.
Non, c'est ça. Le sphénodon est une espèce menacée et protégée en Nouvelle-Zélande. Donc, l'espèce a failli disparaître comme beaucoup des espèces uniques à ce pays-là.
Mm-hmm.
Donc, lors de l'arrivée des premiers êtres humains sur les îles, donc les ancêtres des Maoris, on est au 13e siècle. Hein, la Nouvelle-Zélande, ça a été peuplé il y a super pas longtemps d'un point de vue de l'humanité. Et donc, ces premiers êtres humains-là à peupler la Nouvelle-Zélande sont arrivés avec des espèces prédatrices avec elles sur leurs navires ou du moins leurs embarcations, okay. Notamment le rat. Et donc, le rat est devenu un prédateur formidable sur les îles et beaucoup de ces animaux-là avaient pas développé de défense pour leur nidification.
Oui.
Donc, c'était super facile pour les rats d'aller manger soit les petits ou les œufs. Ensuite est venue la colonisation européenne avec plein de nouvelles espèces prédatrices invasives, notamment d'autres sortes de rats, mais aussi là, des mustélidés, là, genre le furet, toutes ces patentes-là.
Mmh.
Mais même s'il n'y a pas de population de furet, là, mais en tout cas, il y a eu des nouveaux prédateurs qui n'existaient pas en Nouvelle-Zélande. Et donc ça a fait disparaître des deux îles principales de Nouvelle-Zélande, le sphénodon. Donc, c'est pour ça qu'il reste seulement sur des petites îles. Une des raisons qui fait en sorte que le sphénodon survit sur les petites îles, c'est que il y a eu des initiatives gouvernementales en Nouvelle-Zélande pour éradiquer les rats de ces îles-là, pour que ça devienne comme des sanctuaires pour ces animaux qui n'ont pas évolué avec ces prédateurs-là. D'ailleurs, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a lancé une campagne nationale d'éradication des rats de son territoire et vise à être sans rats en 2050.
C'est quand même surprenant, ça.
Oui. C'est un objectif ambitieux, voire même controversé, là, d'un point de vue de l'éthique biologique ou de l'éthique animale. Il y a quand même eu des succès jusqu'à maintenant. Et là, je lisais des articles, là, il y a comme des espèces de comme campagnes communautaires d'éradication des rats et tout ça. Et il y a plusieurs îles secondaires, de l'archipel de Nouvelle-Zélande qui sont maintenant exemptes de rats. C'est d'ailleurs le cas des îles, comme je le disais, où il y a les populations de sphénodons actuelles. Et aussi à Wellington, donc quand même la capitale du pays, il y a une énorme campagne d'éradication du rat qui est en cours et ça donne certains résultats avec une forte diminution des populations de rats et un retour, par exemple, de certains oiseaux rares, donc qui peuvent maintenant se permettre de nidifier à l'extérieur des zones protégées.
OK.
Voilà. Donc,
c'est fou.
Ouais.
Mais genre, je reste sur le rat et non le sphénodon, mais à chaque fois qu'il va y avoir des bateaux qui vont arriver, tu sais, des conteneurs, des trucs comme ça, c'est sûr, c'est plein de rats, me semble.
Ouais, ben c'est ça. Donc, les campagnes font en sorte qu'il y a beaucoup de contrôle aux entrées, puis il y a beaucoup de contrôle aussi dans le pays.
Intéressant. Puis le sphénodon, ça ressemble à quoi, cette petite affaire-là? T'as dit un lézard, c'est quelle couleur?
Donc, c'était comme vert, gris, un peu. C'était vraiment comme un iguane, là. Genre, j'avais l'impression de regarder des affaires en Amérique du Sud, mais.
Il y avait pas l'air méchant.
Il y avait pas de l'air méchant. Il y avait vraiment de l'air d'un iguane. Mais c'est un descendant. C'est le dernier représentant de sa famille qui est un descendant des dinosaures.
Ah. C'est un animal intéressant.
Voilà, je trouvais que c'était plus gentil que mon serpent qui volait.
Ah oui.
Le serpent volant, là, ça, c'était vraiment spécial.
Effectivement, effectivement. Sur ce, on va poursuivre en musique. On va aller écouter La guerre des animaux. Et on se retrouve après.
Protégez vos enfants, ça va péter. Comme l'orage un soir d'été. Faites tonner tambour et on c'est la guerre, c'est pour bientôt, mais c'est une guerre d'un genre nouveau, c'est la guerre. En première ligne, les araignées, les scarabées en ordre dispersé, présentés armes et brindilles, dans leurs cieux les carapaces brillent, la faune contre-attaquée sort des lacs, ils veulent nous foutre en l'air, tout accélère, les serpents aiguisent leur venin, les moustiques se frayent un chemin au nord, les oies s'envolent au sud, les éléphants rigolent, c'est la guerre, c'est pour bientôt. Mais c'est une guerre d'un genre nouveau, c'est la guerre. Mère nature, sors ta gomme, t'as fait une rature, appelée l'homme, égaré quelque part dans la nuit, des biches, des sangliers, on en voit jusqu'ici. Lièvre, parfum, renard, surgissent dans nos parées, oiseaux s'immobilisent, insectes espions quittent leur cocon. M'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Les requins de mer se mettent à marcher, les animaux de compagnie reconvertis dans l'infanterie, les chiens de chasse, de garde, les terriers arrivent désormais à communiquer. La tour de Babel s'organise, le grand conseil en cellule de crise, ils veulent nous coller en batterie, leur perroquet.
Toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron. Et mais là, mon deuxième animal, François, c'est pas un quiz. Malheureusement. Je savais pas trop comment.
J'aime ça, les quiz.
Ouais, je sais, mais je peux essayer. C'est un reptile.
Un sphénodonte. Non, non.
Imagine, on aurait pris la même chose. Qui a aussi un style d'évolution un peu spécial. Mon Dieu, comment je pourrais dire ça sans vendre le punch encore une fois?
Je sais pas.
Je vais te le dire, il porte sa maison sur son dos.
Est-ce que c'est un Bernard l'ermite?
Non, un reptile.
Un reptile, t'as raison. Pour sa maison sur son dos, est-ce que c'est une tortue?
C'est une tortue.
Oh.
Et oui, c'est une tortue. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les tortues. C'est quand même sympa comme animal. C'est mignon, c'est lent. Puis, tu sais, dans Nemo, les tortues sont tellement le fun. Puis ça, c'était avant que j'entende parler de la tortue alligator. Non, plutôt terrifiant. Mais d'ailleurs, il y a au moins 300 espèces de tortues dans le monde.
Ouais.
Donc, c'est vaste.
Et dans certaines espèces de tortues dans la région de Montréal sont menacées.
Oui, tout à fait. Donc, la tortue alligator, c'est une tortue qui est carnivore. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est une tortue qui est omnivore, mais à grande tendance carnivore.
Okay.
Donc, elles peuvent aussi manger de la végétation, mais elles vont vraiment préférer manger de la viande. Et elles chassent en eau douce. Vous irez voir des images. Honnêtement, je vais essayer de le décrire, mais ma description, elle sera pas représentative vraiment de la réalité. On dirait un vieux fossile. Honnêtement, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Un vieux fossile, une roche, c'est gris-brun avec des pics.
Mm-hmm.
Ça a aussi un peu l'air d'un Pokémon.
Oh, OK.
Donc, ça a des airs préhistoriques un peu, comme je le disais, une carapace avec des pics qui rappelle un petit peu la peau du crocodile.
OK.
Donc,
d'où le nom.
Ouais, ou de l'alligator, exactement. Mais je ne sais pas si le nom vient de ça ou de son comportement. Je vais y venir.
Son comportement moins omnivore.
Ben, oui, c'est ça, exactement, sa petite tendance carnivore. En fait, la tortue alligator a un petit bout de sa langue qui est rose.
Okay.
Donc, elle va se camoufler dans les étendues d'eau et elle va sortir de sa langue, donc avec ce petit bout rose, qui a l'air d'un ver. Et c'est comme ça qu'elle va appâter les petits poissons et elle va les attirer puis elle va pouvoir les manger.
Okay.
Les petits poissons, les crevettes, mais pas les crevettes, mais il n'y a pas de crevettes dans les eaux douces nécessairement, mais...
Mettons un écrevisse.
Oui, c'est ça, les crustacés, c'est le mot que je cherchais, puis tout ça. Et elle peut rester presque 45 minutes sous l'eau sans respirer, cette tortue alligator, donc pour justement appâter ses poissons. Donc, ce qui est parfait pour aller chercher un bon petit repas. Et sa morsure est très, très puissante.
Okay.
Donc, tantôt, je te parlais, je savais pas si c'est ses écailles, c'est sa carapace qui rappelle l'alligator ou plus vraiment sa morsure.
Ouais.
Sa mâchoire ressemble presque à un bec, puis elle a pas de dents non plus. Donc, elle va vraiment, en anglais, c'est je pense que c'est alligator snapping turtle.
Okay.
Donc vraiment, t'as vraiment cette image de comme snap, snap, snap.
Ouais.
Puis elle se retrouve en eau douce, surtout dans les rivières, dans les lacs, dans certains états des États-Unis. Il y en a pas au Canada. Donc la Caroline du Sud, Virginie, Floride, Mississippi à peu près. Et c'est dans des états aussi, on peut trouver beaucoup de gens avec des très bonnes intentions. Ici, c'est très sarcastique ce que je vais dire. Ce que j'ai dit en fait.
Ah.
Des bons vieux rednecks qui ont capturé des tortues alligators. Puis ils ont fait des vidéos. En fait, c'est comme ça que je suis tombée là-dessus. Qui ont fait des vidéos où ils lancent des canettes de bière à la tortue. Et comme je le disais il y a un instant, sa morsure est très puissante. Donc, en voulant, je ne sais pas si elle veut attraper la canette ou
défendre.
Se défendre, elle va la percer instantanément. C'est vraiment fou à voir. Il y a des gens qui ont fait des vidéos là, sur Internet, puis t'es comme « Ah, c'est donc bien drôle ». Bon, ben voilà.
Voilà.
Donc, mais il faut faire attention quand même parce que sa morsure, comme je le disais, très puissante, ça peut casser des os.
Ah ouais.
Ouais. C'est pas une espèce qui est en danger, donc ça, c'est une bonne chose. Mais il y a plusieurs États qui ont interdit d'en prendre dans la nature parce que t'sais, elle est pas en danger, mais faut pas non plus...
Abuser de lui lancer trop de bière dessus.
Exactement. Ouais. Puis, notamment, il y a leur habitat qui se dégrade à cause de l'exploitation humaine. Donc, comme je disais, pas en danger, mais il garde l'œil ouvert pour être sûr que ça se complique pas trop. Elle pèse en moyenne 60 kg. C'est
quand
pas
même.
Une petite tortue d'aquarium. Là.
C'est quand même plus petit que le bébé narval.
Oui, c'est plus petit que le bébé narval, effectivement. Ça pourrait monter jusqu'à 180 kg. Ça, c'est une information, cependant, qui est contestée parce que ça daterait des années comme 30, puis ça n'a jamais été confirmé que c'était bel et bien une tortue alligator. Mais quand même, 180 kg, c'est de la bonne tortue.
Ouais.
On est pas mal. Puis c'est une tortue qui peut pas se cacher dans sa carapace parce que la carapace est trop petite pour le corps de la tortue. Donc ça fait que quand c'est le moment de se défendre à la place de se cacher, ben elle va mordre.
Ah, ouais.
Donc, c'est pour ça aussi que ça peut faire peur puis tout ça. C'est une tortue qui est comme défensive si on veut, mais si on la dérange pas, c'est vraiment pas un animal qui est dangereux pour les humains.
Donc l'animal va pas être agressif, il va se défendre avec son bec.
Exactement. Puis l'humain, on est le seul prédateur entre guillemets de la tortue.
Ah ouais?
De la tortue alligator. Ouais. Puis c'est une tortue qui est quand même relativement bonne pour l'environnement entre guillemets parce que elle peut nettoyer en mangeant un peu tout ce qui se trouve dans les rivières. Notamment c'est une tortue qui est opportuniste, donc elle mange tout ce qu'elle trouve. Elle peut manger des poissons morts aussi s'il y en a. Elle va les manger.
Elle est juste comme ça, là.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'elle peut nettoyer les cours d'eau et tout ça.
Je comprends.
Elle va vivre entre 11 et 45 ans en liberté, jusqu'à 70 ans en captivité quand même. Puis elle va atteindre la maturité sexuelle vers l'âge de 11 ans, ce qui est... Voilà, c'est juste un fait comme ça. Pour compléter mon exposé sur la tortue alligator, comme je le disais, on n'en trouve pas au Québec, c'est juste dans le sud des États-Unis. Mais nous, on a une espèce qui ressemble, peut-être tu l'as déjà entendu parler, la tortue serpentine.
Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas d'image
en
tête.
C'est un peu moins préhistorique comme look, mais c'est aussi une tortue dont la carapace est trop petite pour le corps, donc elle va pas se camoufler. En anglais, c'est la snapping turtle, donc même chose, mâchoire
toujours
assez.
Snapping? Genre?
Ouais, l'autre, c'est alligator snapping. Ou je sais pas si c'est alligator ou un autre mot. Celle-là, c'est juste la snapping. Puis donc, même chose, morsure assez puissante, tout ça. Puis ça, on en trouve...
Serpentine, là, c'est une autre affaire qui mord.
Oui, exactement. Une autre affaire relativement terrifiante. Mais bon, les tortues, C'est pas terrifiant.
C'est plus gentil.
C'est plus gentil. Puis si tu pars à courir, généralement, ce serait si surprenant qu'elle puisse te rattraper. Quoique, on n'est jamais à l'abri. Sur cette mini chroniquette tortue, à saveur de tortue, c'est donc la fin de cette émission. On se laisse en musique. On va
aller. Ben, attends, as-tu été surprise par les animaux?
Oui, j'ai été surprise. Okay. J'ai été surprise, puis j'ai trouvé ça intéressant. On pourrait refaire ça de temps en temps.
Mais peut-être sur un autre thème que les animaux, genre d'autres choses surprenantes.
D'autres choses surprenantes.
À suivre.
Oui, à suivre. Sur ça, on se laisse en musique. On va aller écouter les trois accords avec les dauphins et les licornes.
Oh, parfait.
Oui, puis on se dit à la semaine prochaine. À plus.
Bye.
Je t'ai acheté un autre dauphin à la boutique de bibelots. C'était le plus éclatant du magasin, comme une étoile qui sort de l'eau. Il n'y en a pas d'autres animaux soit aussi impressionnant. Il n'y en a pas d'autres qui sautent aussi haut en étant aussi intelligent. Je l'ai mis dans ma garde-robe avec les autres. Je l'ai mis dans ma garde-robe. Section des souvenirs. C'était la plus élégante, c'était comme si elle voulait venir me dire que si ensemble les narvals et les chevaux faisaient des licornes en s'accouplant, on pouvait toujours faire quelque chose de beau avec les amours différents. Tu l'as mise dans ta garde-robe avec les autres. Tu l'as mise dans ta garde-robe. Qu'on cache un jour déborde à force d'emplir les garde-robes. Alors j'irai devant ta porte dans une scène de nature morte, couché par terre dans les offrandes, dans les bijoux et dans la viande. Des fourrures de Shanghai, des tapis de Sheik, des fruits exotiques et du steak. Des fruits exotiques et du steak. Des fruits exotiques et du steak. Des fruits exotiques. We'll be right back.
Salut, on est Dear Criminals.
Vous écoutez CISM 89.3.
Allez chez nous, j'en venais, parce que j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, faites ce que vous voulez en attendant.
Yeah! Oui, salut, le Sphinx en direct de Whisky du Sable de Montréal.
Je vais essayer de ne pas être trop émotif.
Bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro.
Tu aimais ça, la tempête de neige puis l'énergie rock, là? À ma tête, il me semble que ça fly.
Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous les mercredis.
C'est correct, gars?
Yo, Montréal.
Danny, vous n'êtes pas?
Prends toujours un métro pour la vie. 2 heures de marde.
Dans la marge de CISM, ça date pas d'hier.
10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM, Montréal.
Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20 heures, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, les dimanches, dès 18 heures.
Jouer du ukulélé, ça s'apprend. Créer une BD, c'est faisable. Danser la salsa s'empiler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Art visuel, cinéma, communication, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer notre créativité ce printemps, on s'inscrit aux ateliers culturels de l'UDM sur catalogue.vieétudiante.umontréal.ca. En prime, on profite d'un 20$ de rabais sur notre inscription à un atelier avec le code promo CISM 89.3.
Production Nuit d'Afrique présente la superstar malienne Oumou Sangaré, qui a influencé tant Beyoncé qu'Alicia Keys. Oumou Sangaré sera en concert exclusif le 21 avril au MTLUS. Billetterie et info sur festivalnuitdafrique.com.
Vous avez sûrement remarqué, mais nos réseaux sociaux sont toujours bloqués. Alors on a décidé de revenir à la bonne vieille méthode de l'infolettre. Chaque semaine, on t'envoie un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre nos murs. Sessions live, culture, société, événements, concours... Bref, on te résume tout ça en un seul courriel super rapide à lire. Abonne-toi à l'infolettre de CISM sur le cism893.ca. Il ne manque plus que toi.
Ici Canon, vous écoutez CISM.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, la marge.
Vous écoutez La Collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose